بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. Chers frères en islam, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité de reprendre les cours de tafsir ce soir. Il me semble que la dernière fois, on avait plus ou moins développé فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَ. On avait expliqué الصَّاخَ, qui est un des noms du Qiyama. Et on avait vu qu'avant que le Qiyama ait lieu, avant que l'être humain, que le croyant, ne soit présenté devant Allah Azza wa Jal, que son ruh quitte son corps, ce qui est la fin de sa vie à lui, ou que le dunya soit détruit, c'est-à-dire la fin du cycle de la vie, la fin du cycle de la vie sur la terre, de la khalq, de la création d'Allah. Avant que cela ne se produise, l'être humain se doit de se réveiller et d'être attentif aux différents rappels d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les rappels qu'Allah Rabbul Izzah nous fait dans la sourate Abasa wa Tawalla, on avait énuméré pas mal de rappels concernant l'origine de l'homme, d'où est-ce que nous venons, où est-ce qu'on était avant. Rappel également sur une réalité qui est la mort. Autant la vie est une réalité, nous constatons, nous sommes témoins, subhanallah, du caractère miraculeux de la vie, tout ce qu'Allah Rabbul Izzah nous donne comme bienfait. Mais également, la mort est une réalité, et ce sont là des choses que nous voyons au quotidien. Donc, deuxième rappel concernant la mort, et troisième rappel, ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَ. Le troisième rappel, c'est la résurrection. Ensuite, il y a des rappels également sur les bienfaits du quotidien, que la personne voit ce qu'il consomme, ce qu'il mange, ce qu'il boit. On a vu que tout ça, ce sont des rappels. L'objectif est de créer un lien entre l'homme et Allah. Ça, c'est le plus important. Et ça nous ramène vers le principe de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِي لِيَعْبُدُونَ. Parce que au-delà du culte, c'est-à-dire du gestuel que nous allons faire quotidiennement pour montrer notre croyance, pour montrer notre adoration, notre soumission envers Allah Azza wa Jal, il n'y a pas uniquement, c'est-à-dire la relation entre l'homme et Allah, subhanallah, la relation entre le makhlouq et son khaliq ne doit pas se limiter à une relation occasionnelle. C'est-à-dire que quand je viens à la masjid, je viens à la mosquée, là je vais mettre mes habits de musulman. Et là je vais me vêtir de mon akhlaq, de mon comportement de musulman. Et là je vais mettre une clé USB, mon programme muslim. Et là je comprends le monde comme le mu'min. Mais ensuite, quand je sors, que ce soit au niveau du travail professionnel, familial ou autre chose, là je redeviens monsieur tout le monde, avec des objectifs qui sont communs à n'importe quelle personne, n'importe quel citoyen lambda qui a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah de son cœur ou qui ne l'a pas. Non, c'est pas cette conception des choses que nous voulons. Même si la personne qui, mashallah, lorsqu'elle vient à la masjid, elle fait ses 5 prières, alhamdulillah, il n'y a rien à dire. Je sais pas si ceux qui étaient en ville pour la khutbah aujourd'hui, vous avez entendu le imam citer le hadith dans lequel un sahaba, un arabi, un bédouin, avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, donne-moi des indications. Quelles actions je peux accomplir pour accéder au paradis? Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit des paroles d'une grande simplicité, mais d'une grande évidence, je voulais dire, d'une grande évidence. Accomplis tes 5 salats, jeûne pendant les périodes de Ramadan. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué les piliers de l'islam. Arkan al-Islam. Sahaba, ce Arabi, ce Bédouin dit, Wallahi, je jure que je ne fais pas plus que ça, mais je ne diminue en rien ces 5 piliers. Pour ça, il me dit, si vous voulez voir une personne du Jannah, regardez cette personne. C'est-à-dire celui qui arrive à ramener dans sa vie les 5 piliers régulièrement, comme il le faut, comme Allah Azza wa Jal attend du croyant, mashallah, c'est quelqu'un qui bouchera. Hein, on peut estimer que c'est quelqu'un qui va entrer au paradis. Maintenant, en commentaire, les savants disent que ça sous-entend énormément de choses. qu'une personne accomplisse ses cinq piliers, mais qu'en même temps la personne n'accomplisse pas de péché. Alors, on va pas entrer dans un charh, dans une explication, mais là où on veut en venir, c'est qu'il faudrait pas non plus, parfois, hein, qu'on ait une compréhension très limitée de l'islam. C'est-à-dire, l'islam, c'est l'islam de la mosquée, c'est l'islam du ramadan, ou alors l'islam du hajj. Quand je vais au hajj, là, bien sûr, je vais au haram 5 fois par jour, j'y vais très tôt, je fais le tawaf, je vais faire... Il y a des gens, mashallah, quand ils vont au ramadan ou ils vont au hajj, vous les voyez, c'est extraordinaire. Ils ont une énergie débordante, ils sont assidus, ils sont, mashallah, ils sont engagés spirituellement. Que ce soit les messieurs, que ce soit les dames. Maintenant, et l'intérieur, Allah seul le juge, hein, on n'est pas là pour porter un jugement. Maintenant, le constat, si au retour... La personne reprend bien sûr sa vie familiale, professionnelle et ainsi de suite, et que la personne retourne vers ses péchés du quotidien en estimant que mon devoir a été accompli, j'ai été au hajj, j'ai fait pas mal de choses, ou alors il y a des gens comme ça qui durant toute l'année, wallah musta'an, de le dunya, et puis durant le mois de Ramadan, ils vont aller à Mecca ou à Al-Madina, ils vont faire l'umra et ils y vont, mashallah, à fond. Ils vont rester dans la haram depuis salat al-dhuhr jusqu'à salat al-tarawih, ils vont faire des heures et des heures. Avec, l'objectif c'est de faire les ibadas bien sûr, mais d'une certaine façon la personne va se dire que voilà, ça y est, j'ai fait mon quota de bonnes actions pour l'année. La personne se rassure, la personne met ses actions en avant pour cautionner maintenant son absence de spiritualité en dehors du mois de Ramadan. C'est une approche totalement erronée de la religion. Et la formule la plus simple pour expliquer que cette approche elle n'est pas correcte, sans porter de jugement, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith basique, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. L'action la plus aimée par Allah azza wa jal, c'est celle qui est faite de manière constante, même si c'est peu. Mais ce qui est important, c'est que la relation que nous avons avec Allah Azza wa Jal, elle soit permanente. Et pour que l'action soit permanente, nous devons être convaincus de l'importance de l'accomplissement des prières, de la lecture du Coran et ainsi de suite, des ibadas, mais qu'il y ait également une relation de conscience, c'est-à-dire une pensée permanente d'Allah. Et quand je dis une pensée permanente d'Allah, ce n'est pas uniquement le dhikrullah, le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Très souvent, on a une approche très limitée de la pensée d'Allah, en se disant penser à Allah, c'est prendre un sabbah, hein, comme on dit, c'est un tasbih, ou même celui qui dit que le tasbih, c'est pas bien, sans entrer dans les détails, mais on va faire le dhikr. Oui, ça c'est la pensée d'Allah, mais la pensée d'Allah, mes chers frères en islam, elle va bien au-delà du moment que tu vas consacrer pour faire les louanges d'Allah. Ça peut être quand tu regardes la création d'Allah et que tu penses à ton Seigneur. Ça peut être un sentiment de reconnaissance permanent. À chaque fois que tu constates un bienfait, tu rentres chez toi, tu vois ton épouse qui est là, tu vois tes enfants, tu vois que, alhamdoulilah, t'as un toit, tu as mangé, le soir tu as un lit, tu vas dormir, tout ça ce sont des bienfaits, oui ou non, des ni'ma. Et que tu es intérieurement, même si tu ne vas pas faire un grand discours à Mabad, hein, j'atteste qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah, Muhammad est son prophète, je fais partie des reconnaissants. Pas besoin de tout ça. Que de ton cœur, alhamdoulilah, oh Allah, tout ça, ça vient de toi. Yani, qu'il y a une relation permanente, qu'il y ait un flux, un échange en permanence du makhlouq, de la créature, envers son créateur. Et pareil dans les moments de difficulté. Parce que la vie est une succession de moments de difficulté ou de moments de bonheur. Et dans les moments de difficulté, qu'il y ait cette relation aussi avec Allah. Pas que dans un moment de difficulté. Alors, là aussi, vous allez trouver l'approche un peu technique, mais il y a des gens dans les moments de difficulté, ils vont dire, bon, on va faire doua, et après, ils vont foncer vers les asbab. Il y a quelque chose qui est plus ou moins correct dedans. La personne s'oriente vers Allah, et ensuite, la personne va voir un médecin ou je sais pas, en fonction de son problème. Mais la réaction la plus adéquate, ce serait de faire doua, certes, mais à chaque étape, à chaque moment, à chaque seconde de la difficulté, le cœur reste avec Allah. Quelle que soit l'évolution du problème, positive ou négative, le cœur reste avec Allah. C'est-à-dire que c'est une relation permanente que le musulman se doit de créer avec son Seigneur. Ça, c'est le mu'min. Ça, c'est le croyant. Et vous voyez, quand le cœur a l'habitude de s'orienter de se diriger vers Allah Azza wa Jal, on a les qualités de la foi qui s'installent. Et notre prophète alayhi salatu wa salam avait qualifié cette personne de mu'min ajaban. La situation du mu'min, elle est ajib, elle est appréciable, elle est incroyable. Lorsqu'il lui arrive un moment de difficulté, il fait preuve de patience et c'est là un bien pour lui. Et lorsqu'il lui arrive un moment, il connaît un moment de bonheur, il fait preuve de choukr, de reconnaissance. C'est un bien pour lui. C'est-à-dire que le plus important, c'est que le prophète décrit le croyant. Et il décrit deux réactions. On a compris les deux réactions. Mais j'aimerais qu'on aille au-delà de ces deux réactions. De prendre le début et la fin. Que le croyant, c'est celui qui donc tout le temps pense à Allah. Dans les moments de difficulté, son cœur est avec Allah. Dans les moments de bonheur, son cœur est avec Allah Azza wa Jal. Ne jamais, en résumé, ne jamais avoir un cœur rafil. Al-ghafla, ça c'est la pire des choses. Insouciant, oublier Allah. Vivre comme ça, suivre ses instincts, faire ce que je veux faire, regarder ce que je veux regarder, manger, écouter. Yani, suivre ses shahawat, parce que quand on oublie Allah, en fait on est en train de suivre autre chose. On est en train de suivre son nafs, ou on est en train de suivre les gens, on est en train de suivre autre chose. Alors que le cœur qui a la pensée d'Allah en permanence, c'est quelqu'un qui va faire en sorte, déjà si notre cœur est en permanence avec Allah dans toutes les situations de notre vie, par les ibadah, par les dhikr, par la pensée, par la reconnaissance et ainsi de suite, c'est un croyant qui va rester concentré. Parce qu'il faut rester concentré. Et quand on reste concentré, on évite les waswasa de shaitan. On évite les insufflations de shaitan, les tentations du diable. Qu'Allah nous accepte. Donc, plusieurs appels sur la création de l'homme, sur la mort, sur la tombe, sur la résurrection, sur ce que nous consommons. C'est nous qui versons l'eau abondante, les versets qu'on avait, alhamdoulilah, développés. Et si l'homme ne tient pas compte de ses rappels, à un moment donné, viendra as-sa'a, zalzalatus sa'a, viendra le qiyama, fa'idha ja'atis sa'a, as-sa'a, qui était traduit par le fracas. Et on avait expliqué il y a 3 semaines, qu'est-ce qui se passe là-haut? Ben là-haut, tout ce que nous avons connu comme relations entre les gens sont différents. Même les relations qui comptaient le plus pour nous, les relations entre, par exemple, un homme et son épouse, un père et son fils, un papa, un enfant avec sa maman, la relation de muhabba, la relation, l'attachement, l'amour qu'il y a pour les parents, pour les grands-parents, pour la famille, pour l'épouse, pour les enfants, pour les proches, ben, tout ce qui faisait la nature de l'homme, tout ce qui nous était propre, deviendra étranger. Deviendra quelque chose qui n'aura aucun intérêt. Parce que le jour de Qiyama, comme on avait expliqué, « Yawma yafirrul mar'u min akhihi » Le jour où l'homme s'enfuira de son frère. Il est cité donc dans cette succession de versets, plusieurs relations de sang et d'amour. Yawma yafirru al-mar'u min akhi, de son frère, wa ummihi wa abihi, de sa mère et de son père, wa sahibatihi wa banihi, de sa compagne, c'est-à-dire de son épouse, wa banihi, et de ses enfants. Alors que dans le Coran, innama amwalukum wa awladukum fitna. Les enfants, c'est un fitna, c'est-à-dire, naturellement, ça fait partie de l'inéité. L'homme est attaché à sa famille. Il est normal, c'est quelque chose de bien. Il y a des récompenses là-dessus. Mais ce qui était propre, ce qui faisait partie de la fitra, de ce qui est inné à l'insan, chez l'être humain, même ça, on ne le retrouvera plus le jour de Qiyama. C'est-à-dire que le jour de Qiyama, les valeurs seront totalement changées. De même que, on a vu, je pense dans d'autres discours, que les règles ne sont plus les mêmes. Spatio-temporelles, c'est plus comme de ce dunya. Les règles, les lois physiques ne sont plus les mêmes. Quand on parle des personnes avec la transpiration au jour de Qiyama, alors qu'on dit que la terre de Mahsha, c'est une terre qui est pleine, c'est une plaine, d'accord? Donc théoriquement, si on met du liquide, il ne peut pas avoir 2 mètres et 20 cm à côté, c'est pas possible. Mais le jour de Qiyama, les lois physiques ne sont plus les lois physiques de ce dunya. يوم تبدل الأرض غير الأرض. Tout est changé, il n'y a plus rien qui est comme nous le connaissions. Et voilà. Où est-ce qu'on va en venir ce soir? لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. Qu'est-ce qui fait que le croyant ne voudra même plus voir son frère, ni son papa, ni sa maman, ni son épouse, ni ses enfants? tout simplement parce que li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, ce jour-là, non, parce que, pardon, car chacun d'eux, ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. C'est-à-dire que le jour de Qiyam, chaque personne qui est ressuscitée aura un seul souci. Il y aura un souci qui sera obsessionnel. Parce que c'est à partir de cette étape-là qu'il va savoir est-ce qu'il fait partie des gens heureux qui seront parmi ces gens donc cités dans le verset 38. وَوْجُوهُ يَوْمَ إِذٍ مُسْفِرَةً ou alors de le verset 40 نَسُلَ الْعَافِيَةً وَوْجُوهُ يَوْمَ إِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً ou dans d'autres versets أَصْحَابُ الْيَمِينَ أَصْحَابِ الشِّمَالِ ou dans d'autres versets يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ les gens de droite ou les gens de gauche ou alors les gens qui auront le visage souriant, d'autres qui auront le visage avec l'obscurité, d'autres qui auront le visage lumineux, d'autres qui auront le visage avec de la noirceur. C'est-à-dire le jour de Qiyam, il y aura deux catégories de personnes. Tout simplement ceux qui auront vécu dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et ceux qui n'auront pas vécu dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'il y a deux destinations. Il n'y en a pas trois. C'est soit le Jannah, soit le Jahannam. Et donc, dès la résurrection, les gens sont ressuscités de façon différente. Donc, pour revenir, on essaie de se rattacher un peu au verset et puis on va essayer de développer légèrement quelles sont les situations qui font que c'est un moment de stress. Sha'nu yughni, quand on parle de son propre cas pour l'occuper, qu'est-ce qui occupe l'homme le jour de Qiyam? C'est la question qu'on aimerait comprendre. Qu'est-ce qui occupe l'être humain le jour de Qiyam? Le prophète alayhi salatu wassalam avait cité le hadith innakum tuhsharuna yawm al-qiyama hufatan uratan ghurla, hein, que les gens seront ressuscités sans vêtements non circoncis et sans chaussures à leurs pieds. Et là il y avait la question, ça ce hadith on avait déjà cité, de Aïcha radiyallahu anha, ar-rijalu wan-nisaa'u yanzuru ba'dhuhum ila ba'd, au prophète d'Allah, comment est-ce possible que les gens seront ressuscités sans vêtements? Les gens pourront se voir. Aïcha radiyallahu anha a une réaction d'orgueil, elle a eu peur concernant sa haya, concernant sa pudeur. Et là le prophète alayhi salatu wassalam donne une réponse. Il y a différentes versions. Dans la version de Bukhari, al-amru a'zamu min an yanzura ba'dhum ila ba'd, sache ô Aïcha que la situation le jour de Qiyam sera tellement difficile, tellement compliquée, que personne ne pensera à regarder son prochain. Et dans une autre version, ça c'est d'Ibn Kathir rahimahullah, il dit, le prophète alayhi salatu wassalam avait répondu à la question, wa an ayy dhalika tas'alin, ô Aïcha, quelle question tu me poses? Innahu qad nazala alayya aya, Allah azza wa jal m'a révélé ce verset, la yadhurruki kana alayki thiyab aw la yakun, il dit que peu importe que tu aies des vêtements, que tu n'aies pas des vêtements, ce verset, il est là, la situation, les gens vont le connaître, le jour de Qiyam. C'est-à-dire que même, subhanallah, tout ce qui est propre au physique de l'homme, ça aussi, il y aura un farsil. Il y aura quelque chose qui va changer le jour de Qiyam. Et là, les sahaba avaient demandé au prophète d'Allah, quand le prophète avait dit que les gens seront préoccupés, et donc, ils ne penseront pas à se regarder mutuellement, ni même à s'adresser la parole. Dans d'autres commentaires, certains muhadithines expliquent que même si une personne retrouve un être cher qu'il avait perdu de ce monde, ce ne sera pas des retrouvailles. Ce ne sera pas des retrouvailles. Même si quelqu'un a retrouvé son épouse qui est décédée il y a 20 ans, il y a 25 ans, aucunement ce sera des retrouvailles. Bien au contraire. Bien au contraire, les gens vont essayer de se fuir mutuellement. Et on avait expliqué la dernière fois pour deux raisons. De crainte qu'il demande des hasanat, ou alors de crainte que la personne vienne réclamer des huquq, vienne réclamer des droits qu'on ne leur avait pas donnés dans ce dunya. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, donc il avait répondu, yub'athu an-nas hufatan uratan ghurla qad aljamahum al-araq. Ça veut dire que les gens seront pris par le araq, par la transpiration, et que certaines personnes vont transpirer tellement que la transpiration va arriver jusqu'à l'aube de l'oreille. Et ça, si on voit les lois biologiques, physiques, comme vous les appelez, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Un être humain ne peut pas perdre autant d'eau. Quand on transpire, c'est l'eau du corps. Sur le plan physiologique, l'homme ne peut pas perdre autant d'eau qui va, vous comprenez. Mais le jour de Qiyam, ahwal, Les situations seront différentes. Déjà, le temps n'existe plus. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de limite dans l'espace. Donc tout ça, ça nous fait comprendre que nous sommes livrés à un autre monde où les règles, ce sont les règles d'Allah Azza wa Jal. De ce dunya aussi, ce sont les règles d'Allah. Le jour de Qiyama, les règles qu'Allah a fixées. Parce que le jour de Qiyama, c'est Malik Yawmiddin. C'est lui seul, le maître du jour de la rétribution. Hada. On va compléter les deux versets. Et puis, parce qu'au moins on sait que ce soir on termine, Inch'Allah, Abasa wa Tawalla. Et puis on revient légèrement sur les kulli mri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughni. Alors, le verset qu'on a vu tout à l'heure, ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis. Alors, quand on dit ce jour-là, est-ce que c'est de le Jannah? Non. Ce jour-là, on ne parle pas du Jannah, on parle de l'au-delà. Alors qu'on avait tellement insisté, on avait tellement expliqué que la résurrection, c'est une étape extrêmement difficile, que nous sommes à un endroit, nous sommes à une étape où certaines personnes vont demander, des kuffars vont demander à Allah d'être précipités dans le Jahannam, parce que c'est une situation qui n'est pas possible, qui est invivable, qui est insupportable. Mais comment est-ce possible qu'à ce moment-là, il y a des visages rayonnants, riants et réjouis? En commentaire, les mufassirin, rahimahumullah, disent « Wujuhun yawmaydin ay, yawm al-qiyama, musfira min al-isfar wal-wudu'h, li'annaha wujuhul mu'minin. » Ce sont des visages de croyants et qui reflètent amma fi qulubihim min as-surur wal inshirah. Ces visages seront rayonnants parce que ces visages, le jour de Qiyama, le visage du croyant sera le reflet du contenu de son cœur. Il n'y a pas d'hypocrisie le jour de Qiyama. Il n'y a pas quelqu'un qui fait semblant d'être dans le droit chemin, mais intérieurement il est pourri. Là, wallah, qu'Allah nous pardonne. Le jour de Qiyama, l'homme qui aura le visage rayonnant, celui qui sourit, c'est parce que son cœur est rempli de khayrat, est rempli de bien, est rempli de lumière, de inshirah. Et là, la poitrine ouverte, c'est quelqu'un qui a suivi les ordres d'Allah, son cœur est rempli de lumière, ce qui fait que cette lumière va refléter sur son visage, le jour de Qiyama. Et ça, ça rejoint Yawma Tabyaddu Wujuh, le jour où les visages seront blancs, seront illuminés. Qu'Allah nous accorde cette qualité, que le jour de Qiyama, nos visages soient illuminés, remplis du nour de la foi, du nour du iman. Mustabshira, cherchez l'autre mot, il y aura des visages rayonnants, riants et réjouis. Non, la traduction n'est pas, il manque quelque chose. Donc, mustabshira, dahikatu mustabshira, riants et réjouis. Il y a un petit terme qui manque, parce que Mustabshira, ça vient du Al-Bishara, la bonne nouvelle qui est annoncée. En fait, quel rapport avec la bonne nouvelle? En commentaire, Mufassirin explique « Ay, qad bushirat bil khayr » que c'est un visage qui est rayonnant, parce que c'est un visage qui a déjà eu les prémices, les premières bonnes nouvelles. Il n'y a que le croyant, là, que les ressuscités. Il n'y a personne qui lui a dit que tu vas dans le Jannah. Mais il est heureux. Il a le visage souriant, rayonnant, parce qu'il a déjà eu les premières bonnes nouvelles. C'est quoi les premières bonnes nouvelles? Les annal malaika tatalaqahum bil bushra yaqulun salamun alaykum. C'est parce que cette personne a déjà rencontré des malaika qui les a salués et qui a dit que la paix soit sur vous. Et ça, ce sont des signes de bonnes nouvelles. Et ça date de quand, ça? La résurrection. Pardon? Ah d'accord, je croyais que mon micro était tombé. Zakallah. Oui, au moment de la tombe. La résurrection, oui, mais également au moment de mourir. Au moment de mourir, on avait vu, je ne sais pas dans quelle sourate, ou Al-Fajr, il me semble. Oui, Ya ayyatuha an-nafs, Ya ayyuha, aidez-moi. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, barakallahu fik. Irji'i ila rabbiki, radiyatan mardiyya. Dit qu'au moment de mourir également, le croyant, le mu'min, il reçoit la bonne nouvelle. Il reçoit la bonne nouvelle qu'Allah Azza wa Jalla est satisfait de lui. C'est-à-dire que dès ces premiers moments, la personne, son cœur est rempli de joie. Le défunt qui reçoit la bonne nouvelle qu'Allah est satisfait et qu'Allah est content de lui, c'est quelqu'un qui quitte ce dunya. Alhamdulillah, c'est bushra, c'est fath, c'est une délivrance. C'est pas une épreuve. L'épreuve, c'est pour ceux qui pour ceux qui restent, mais pour celui qui quitte le dunya avec la bonne nouvelle de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, c'est une délivrance. C'est pour ça que dans les moments de mayyet, il ne faut pas être... Enfin, il est facile de dire qu'on n'est pas concerné, mais il ne faut pas qu'il y ait une manifestation excessive de tristesse. Certes, le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même avait pleuré lorsque son fils est décédé. Bilashak, ça c'est rahma qu'Allah met dans le cœur des hommes. Mais il faut qu'il y ait une différence entre la réaction du croyant et celui qui n'a pas de iman. Celui qui n'a pas de iman, lui, il m'a quitté, il est parti, c'est fini. C'est pour ça qu'il pleure, et voilà, ça se comprend. Mais celui qui a la foi, il sait que mon père, ou mon fils, ou mon épouse, ou telle personne de ma famille, il est retourné auprès d'Allah. Il est retourné auprès d'Allah, la mahala. Il n'y a pas d'échappatoire à ça. C'est le cycle de la vie. C'est la volonté d'Allah. On va se révolter contre la volonté d'Allah. C'est le cycle. Sunnatullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. On le sait, on le mémorise, on connaît la traduction. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'istislam lillah, se soumettre à Allah, même dans les choses qui sont les plus lourdes. Parce qu'il est facile de dire, moi j'obéis à Allah dans les choses qui sont accessibles et faciles, mais dans les choses qui nous touchent plus profondément, c'est là aussi que nous voyons la soumission envers Allah Azza wa Jal. Donc, cette personne qui quitte ce dunya, qui reçoit la bonne nouvelle, c'est un homme qui est heureux. Et donc, nous ne devons pas être excessivement tristes, parce que nous devons être persuadés que si c'était quelqu'un qui était dans le droit chemin, alhamdoulilah, cette personne quitte ce dunya, le cœur rempli de lumière, de iman, et c'est à ce moment-là qu'il va trouver les récompenses de sa vie. Est-ce que dans ce dunya, à un moment donné, quand vous êtes dans une grande tristesse, une grande difficulté, est-ce que vous pouvez activer option Mes salats 2012. Je vais pas bien, j'active l'option salat 2012, je veux toutes mes récompenses de mes prières de 2012. Ça n'existe pas ça. Ou alors, bon, dans tel moment de difficulté, je vais demander, je veux avoir mes récompenses du Ramadan 1995. Au moins là, ça va m'être profitable. Non, parce que dans ce dunya, vous ne pouvez pas avoir vos récompenses, vos hasanat. Ça c'est muddakhir. Ça, Allah les a gardés pour toi. Mais quand tu quittes ce dunya, c'est là que l'homme voit natija, tout ce qu'il a cumulé, tout ce qu'il a accompli comme bonne action, c'est maintenant que ces actions viennent auprès de lui. Différents athar qui prouvent que les bonnes actions viennent auprès du défunt, au moment du bain mortuaire, bien sûr de la tombe, et ça c'est authentique, et ainsi de suite, à chaque étape, nos hasanats sont avec nous. C'est pour ça que le défunt qui était dans le droit chemin, c'est un homme qui est heureux. C'est un mort qui est heureux, j'allais dire. Parce qu'il voit tous ses hasanats avec lui. Alors que celui qui a quitté ce dunya avec des péchés, là c'est une problématique. Vous voyez comment notre orientation, elle doit être en fonction de iman et amal saliha. Pas uniquement les sentiments. Maintenant, si on a un proche qui nous quitte et on sait que la personne ne faisait pas la salah, ne faisait pas de bonnes actions, là on a du souci à se faire. Mais pas par rapport à al-mufaraqa, pas par rapport au fait qu'il nous quitte, mais par rapport à sa destinée. Qu'est-ce qui va lui arriver? Quelle sera sa situation dans la tombe, dans l'au-delà et dans les autres étapes? Donc, pourquoi mustabshira? Parce qu'il avait déjà eu ces bonnes nouvelles depuis sa mort et la résurrection, les anges qui annonçaient là la bonne nouvelle. Et l'autre catégorie, de même qu'il y aura ce jour-là des visages couverts de poussière. Et ça, c'est l'autre catégorie. Ce sont les kuffars. وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلِيهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Donc ça, c'est l'autre catégorie de personnes. Ce sont ceux qui n'avaient pas iman en Allah, ou ceux qui étaient les fussars, qui étaient dans le péché. Le visage obscurci, visage couvert de poussière, nas'alullaha al-afia. Donc, deux destinations, deux situations le jour du qiyam. Alors, si vous permettez encore 5 minutes ou 10 minutes, on en est à 29 minutes, 5 minutes, inshallah. Juste, on aimerait creuser un petit peu ce que les mufassirin, rahimahumullah, ils ont donné comme explication concernant, alors on aurait pu énumérer ça en une heure et demie, mais juste, on va passer en revue les étapes angoissante de l'au-delà. C'est l'occasion de prendre conscience du sens de l'ikulli mri'in minhum yawma'idin sha'nun yughnihi. Qu'est-ce qui occupera l'homme le jour de Qiyam? Parce que si on est conscient de ce qui nous occupera le jour de Qiyam, la logique, le bon sens, ce serait d'essayer d'apporter les solutions depuis ce dunya. De faire en sorte que je ne connaisse pas des moments de stress, intense, des moments d'angoisse au jour de Qiyama, mais que plutôt le jour de Qiyama, je veux être cet homme qui, wujuhun yawmaidhin, c'est celui qui a le visage illuminé, rempli de nour, de la lumière de sa foi, ce visage qui est souriant parce qu'il a déjà obtenu les bonnes nouvelles. Quelles sont ces situations stressantes le jour de Qiyama? Ce qui est stressant le jour de Qiyama déjà, c'est de voir tout ce qui se passe. Imaginez qu'Allah nous protège, on vous amène de but en blanc comme ça, dans un hôpital, aux urgences, où vous voyez plein de choses. Vous voyez des gens qui sont blessés, des gens qui sont accidentés, des gens qui sont sous perfusion, des gens qui sont en train d'être réanimés, ainsi de suite, et que vous devez voir ça. N'est-ce pas là des images qui sont choquantes? Est-ce que ça ne crée pas un traumatisme? Quelqu'un qui n'a jamais vu tout ça. La personne dort, il se réveille, dans un tel endroit, la personne regarde ébahie, mais la personne est profondément apeurée. Maintenant, imaginez le jour de Qiyama, quelles sont les scènes qui sont visibles? L'intégralité des êtres humains, l'intégralité des djinns, l'intégralité des animaux, et ensuite l'intégralité des habitants, des malaïkas, pardon, qui peuplent les Saba'a Samawat, les sept cieux, qui commencent à s'installer, à faire un premier cercle, un deuxième cercle, un troisième, jusqu'à un septième cercle, et que l'homme comprend qu'en ce jour, personne ne peut s'échapper. Yawm aydin aynal mafar kalla la la wazar. Il n'y a aucun échappatoire, il n'y a aucune possibilité d'échapper à cette étape. Ce qui est stressant, ce qui est yurnihi, ce qui préoccupe l'homme également, le jour de Qiyama, c'est ardu jahannam. C'est lorsqu'Allah azza wa jal demande à l'enfer de se présenter. Ça, c'est tout un chapitre à développer, on ne va pas le faire. Lorsque l'enfer sera présenté à la création et que chaque homme, chaque être humain verra de ses yeux le Jahannam, Inch'Allah, ce sera le seul moment où nous le verrons et que personne ne le verra de près. Il est dit dans certains, si on devait entrer dans l'explication, serait très long, dit qu'à un certain moment, il y aura les zafirs, il y a des versets qui parlent des zafirs, les souffles de l'enfer qui va cracher. Dans les hadiths, il explique comment les anges tiennent le Jahannam avec des salasil, avec des chaînes, et à un moment donné, l'enfer, c'est comme si qu'il est en train de se révolter, et les anges n'arrivent plus à le contenir. L'angoisse qui va saisir le cœur de chaque personne, c'est quelque chose d'énorme. Dans un verset, si le verset me revient, وَبَلَغَتِلْ قُلُوبُ الْحَنَاجِرَ dit que le cœur monte, c'est comme si que le cœur monte au niveau de la gorge, c'est-à-dire que c'est une situation de stress qui est indescriptible. Même les métaphores qui sont utilisées pour décrire l'angoisse et le stress, ce sont des métaphores qui n'appartiennent pas au langage propre à l'homme. Quelles que soient les expressions, on ne parlera jamais du cœur qui remonte. Également, lorsqu'on décrit les remords, yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, on dit que les gens ils vont se mordre les yadayhi, les bras. C'est pas comme l'expression se ronger les ongles. Les gens ils vont se mordre les bras tellement ils auront des remords le jour de Qiyama. Là on parle des koufars, de ceux qui étaient dans le mauvais chemin, parce que ils voient des situations qui sont stressantes, et un des plus gros stress c'est l'enfer qui est présenté. Dans certains textes, il est même dit que même Isa alayhi salam, en ce jour, il va dire que je ne demande pas ma mère Maria, mais je demande nafsi, nafsi. Et les hadiths plus ou moins connus qu'on a déjà entendus sur les shafa'a, que même les anbiya alayhi salatu wa salam auront peur en ce jour et n'oseront pas aller demander l'intercession auprès d'Allah azza wa jal le jour de Qiyama, bien sûr à l'exception de notre prophète alayhi salatu wa salam. Parmi les situations stressantes, yurinihi, qui va nous faire oublier même nos proches qui sont à côté de nous, c'est lorsque nous voyons des gens qui sont jetés par leur visage de le Jahannam sans rendre compte. Dans certains hadiths qui décrivent les premières étapes du mahshar, il est, si je ne me trompe pas, j'ai pas le hadith sous les yeux, enfin je l'ai mais à la page suivante, mais si on commence après ça va être long, si je ne me trompe pas, il y a trois catégories, enfin il y a quelques catégories de personnes qui vont aller en enfer directement, sans rendre compte, et humiliées, agrippées par leur visage. Si je ne me trompe pas, ça fait quelque temps que j'ai le hadith, et parmi ces gens-là, ce seront ceux qui ont causé du tort à Allah et à son prophète. Alhamdulillah, bouchra. N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas là une justice le jour de Qiyama? Ces personnes qui essaient de causer du tort au dîn d'Allah, le jour de Qiyama, telles seront leurs situations. Mais ça reste situation stressante. Imaginez, excusez-moi, les exemples sont en décalage. Vous êtes convoqué chez un proviseur ou autre chose, vous êtes 10 amis, vous voyez 5 qui se font renvoyer, 5 qui ont des gros problèmes, et toi tu attends. Tu ne sais pas, est-ce qu'il y aura le même sort pour moi? Est-ce que ce sera différent? C'est-à-dire, le fait de voir des gens jetés dans l'enfer, c'est une situation extrêmement stressante. Le fait de voir des gens entrer dans le jahannam, vous en rendez compte. Parmi les situations stressantes et angoissantes, le jour de Qiyama, c'est lorsque nous allons voir, qu'Allah nous protège, des gens pieux entrer dans le jahannam. Des gens sur qui on comptait de ce dunya. Des personnes que nous pensions être des guides, des valeurs sûres de le dîn. Hadith connu. Vous voyez de quel hadith je parle? Les trois personnes qui seront appelées au tout début du jugement auprès du tribunal d'Allah Azza wa Jal, le qari, le savant, qui enseignait dans le but que les gens disent que ça c'est un savant ou ça c'est un lecteur, c'est un qari. Mais il n'avait pas de ikhlas, de sincérité. Celui qui donnait dans le chemin d'Allah, qui donnait abondamment, mais son but était que les gens disent de lui que c'est un homme généreux. Mais il n'avait pas de ikhlas, sincérité. Troisièmement, celui qui avait combattu dans le chemin d'Allah, qui a donné son corps, sa vie pour Allah, et qui est mort pour défendre la cause de la religion. Aux yeux de tous, c'est un héros. Aux yeux de tous, ce alim, ce grand cher, c'est un référent. Aux yeux de tous, ce muhsin, enfin cet homme, c'est un muhsin. C'est-à-dire, c'est un homme généreux qui donne, il a donné 1 million pour la mosquée, il a donné 100 000 euros pour la midersa, il a donné ça. C'est quelqu'un qui donne sa vie, c'est pour la religion. On avait espoir sur ces gens. Pour nous, c'était un peu, c'était les idéaux en termes de dîn, de spiritualité. Nous voyons ces gens précipités en premier, au tout début du hisab, ils vont directement dans le jahannam. Parce qu'ils n'avaient pas le ikhlas. Celui qui avait combattu, c'était pour que les gens disent lui que c'est un homme courageux. Ce hadith de base, ça soit le ria, soit la gravité de l'ostentation, dit que le muhadithin explique que lorsque nous voyons, nous allons voir ces gens précipités dans le jahannam, on va se dire que telle personne, ils ont fait des choses énormes de leur vie. C'était un grand savant, c'était quelqu'un qui a combattu, c'est quelqu'un qui a donné. Moi, je n'ai pas fait un poisson de tout ça. Et dans tout ce qu'il a fait, il a été puni à cause de quelque chose de... Vous savez, c'est très subtil, ça me l'a qualifié de subtil, ça le nia. Mais moi, le peu d'action que j'ai fait, quel nia, quelle intention il y avait derrière le peu d'action que j'ai fait. Ça cogite, ça travaille, ça réfléchit, ça angoisse, ça stresse. Mais malheureusement, là-haut, on ne meurt pas, on ne claque pas. C'est pas que c'est tellement stressant que le rêve de toute personne ressuscitée, c'est de faire un arrêt cardiaque là-haut. Que le cœur lâche et que je m'échappe. Mais non, non. Parce que même les koufars, ils vont y penser. Ya laytani kuntu turaba. Non, c'est pas possible. Ils vont souhaiter être poussière. Ces gens qui s'enflaient d'orgueil de ce dunya, ils auraient souhaité être poussière, qu'on les oublie le jour de Qiyam. Non, c'est pas possible. Personne n'est oublié le jour de Qiyam. Celui qui a fait de bonnes œuvres, Allah Rabbul Izzah le récompense, le rétribue. Celui qui est venu avec des péchés, Allah Rabbul Izzah ne l'oublie pas, il aura ce qu'il mérite. Donc, voir des référents religieux jetés dans le Jahannam, ce sont des situations stressantes et chacun va se remettre en question. Il va se dire, mais en finalité, que vaut ma vie de a'mal saliha? Ce qui va stresser les gens également, c'est lorsqu'ils vont voir, et on va s'arrêter à là après, parce qu'il y a encore une dizaine de points, d'accord? On va s'arrêter à là, Inch'Allah, si on y pense, on complète la prochaine fois, avant de démarrer Wan Nazi'at, Inch'Allah. Ce qui va stresser également les gens, parmi les choses, parmi les situations, yurni, qui va faire que nous ne penserons plus à notre prochain, le jour de la Mahsha, de la résurrection, c'est lorsque nous voyons les premières personnes qui sont jugées et que l'homme va voir que telle personne, sa main est en train de parler, d'attester, de témoigner contre lui. Ses yeux sont en train de témoigner contre lui. Sa propre langue, ses pieds, c'est-à-dire tous les membres de notre corps qu'on a utilisé dans le ma'asiyah, dans le péché, vont témoigner contre la personne le jour de Qiyama. Il y a un verset, Allah Akbar, si quelqu'un me rappelle ce verset, hein, le verset m'échappe là, lorsqu'ils vont, hein? Oui, il y a ce verset, mais c'est pas celui-là, barakallahu fi, c'est un autre où ils vont demander, lima shahidtum alayna, wa qalu li juludihim, lima shahidtum alayna. Ils vont dire à leur peau, mais pourquoi? Pourquoi vous attestez contre nous, contre moi? Dire que tu es en train de causer notre propre perte. Et il va dire que c'est Allah qui nous a fait parler, c'est Allah qui a dit. Dire quand l'homme va voir que, comment est-ce que le jugement est daqiq, comment le jugement est précis, que rien n'est filtré, on ne passe à travers d'aucun péché. Et c'est là que nous voyons vraiment le sens profond du terme. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Les deux, خَيْرَيْنْ et شَرَّيْنْ. خَيْرَيْنْ, on va dire Alhamdulillah, mais شَرَّيْنْ, là c'est stressant. Quand on voit qu'il y a le petit, ce qu'on considérait comme un minuscule péché, lui aussi on le voit le jour de Qiyama, tout ça, ce sont des situations qui sont extrêmement stressantes et qui vont préoccuper l'homme le jour de Qiyama, le jour de la Mahshar. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde la tranquillité du cœur en ce jour, quand les gens seront angoissés. Franchement, excusez-moi de le dire comme ça, c'est quoi le bon plan? Illa man atallaha biqalbin salim. Oui, c'est quoi le bon plan aussi? C'est quand tu vois tous ces gens paniqués, angoissés, sous le soleil, sous le Mahshar. Toi, tu es sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyam. Allahumma. Allahumma arja'alna minhum. Allahumma arzuqna hadhihi al-manzila ya rabbal alamin. Qu'Allah nous accorde ce rang, ce degré. Parce que celui qui est sous l'ombre du trône d'Allah, il est tranquille. Il sait qu'il est élu d'Allah et donc il ne va pas connaître ces moments de stress, ces moments d'angoisse. Si vous êtes d'accord, est-ce qu'on peut continuer un peu ça la prochaine fois, les situations stressantes le jour de Qiyama, parce que ça fait partie umouman des croyances sur l'au-delà, des difficultés du jour de Qiyama. Nous allons voir quelques règles basiques, comment est-ce que les gens sont jugés et quelles sont les situations hyper angoissantes du jour de Qiyama. Ça nous fera prendre conscience pourquoi est-ce que le jour de Qiyama les gens seront extrêmement angoissés. Et après avoir complété ça, Inch'Allah, la prochaine fois, on démarre l'avant-dernier surah du chapitre 30, Wan-Nazi'at. Qu'Allah nous accepte d'un tawfiq de comprendre les durous, les enseignements, les explications de la sourate Abasa wa Tawalla. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde les qualités de notre prophète alayhi salat wa salam, les qualités du da'i qui était notre prophète alayhi salat wa salam. Qu'Allah nous donne la possibilité de réfléchir, de méditer, de cogiter, de se rappeler d'Allah en permanence, de se rappeler des bienfaits qu'Allah nous a accordés, d'où nous venons et où est-ce que nous irons, quelle sera notre situation le jour de Qiyama, que ça devienne vraiment nos réelles préoccupations et que nos cœurs soient en permanence en relation avec Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah nous accepte. Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Et bien sûr que le jour de Qiyama, nous fassions tous partie des wujuhun yawma'idhin musfira dahikatum mustabshira, parce que nous aurons déjà reçu les bonnes nouvelles des malaïka qui nous annoncent qu'Allah est satisfait de nous. Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alameen. Jazakum Allah khair.